Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est quoi le fameux secret? Est-ce quelqu'un qui peut me le dire? Pas de la céramique, celle-là je le sais déjà. Ben, en tout cas, je sais pas vraiment, mais tu sais, le secret, là, vous avez entendu parler du livre, le fameux livre, le secret. C'est quoi? Peut-être, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est rendu un best-seller maintenant aux États-Unis, au Canada, au Québec. Tout le monde en a entendu parler. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup entendu parler, mais je me souviens avoir vu le livre, là. C'est comme un livre orange. Il y a comme une espèce de sceau en cire dessus, là, puis c'est écrit « Le secret ». Le fameux secret, il le présente comme quelque chose qui a été caché, que les gens ont voulu garder pour eux, pour garder leur propre gloire, pour pas que leur réussite soit voilée finalement par la réussite de tout le monde. Et puis, semblerait que des gens comme des hommes importants, là, dont j'oublie le nom, genre Beethoven ou Einstein, ou des gens qui ont connu le secret, qui l'ont mis en application et que leur vie a réussi. Maintenant, le secret est révélé. En tout cas, selon le livre, je lisais un petit article là, qui citait, tu sais, le secret. C'est un peu semblable à ce que Mark Messi disait dans Les Boys, la dureté du mental. Si on y croit vraiment, ça va réussir. Le fameux secret que, dans le fond, on a toujours entendu depuis tous les temps, où ce que si tu veux, tu peux, les choses vont, tu vas les attirer à toi. Moi, ce matin, c'est pas du secret que je veux vous parler. C'est de la révélation. C'est le secret de la réussite est révélé depuis longtemps. Et ce n'est pas celui que le livre en question que je viens de parler est en train de dire. Dieu veut nous bénir. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut notre bien. Est-ce que vous croyez ça? Croyez-vous que Dieu veut vous bénir? Il veut vous faire du bien. J'espère qu'on le croit. Que Dieu veut notre bonheur, que Dieu veut qu'on réussisse. Et Dieu ne veut pas notre malheur, mais il veut qu'on réussisse. Et il n'a pas cherché à nous voiler les choses qu'on cherche à travers un code qu'on peut décrypter, essayer de trouver le secret pour la réussite, pour la bénédiction dans nos vies. En fait, c'est tellement révélé clairement que le problème, ce n'est pas la révélation, c'est la compréhension ou l'application qu'on en fait de cela. Dieu veut te bénir et le secret de la bénédiction est révélé depuis des siècles. Seulement, plusieurs ont tenté de l'étouffer, de le réprimer, tenté de le cacher parce que, en même temps, cette révélation-là transforme nos vies. Elle bouleverse nos vies, mais elle nous mène aussi à la bénédiction. La bénédiction vient de la mise en pratique des choses révélées. Je fais juste vous citer un texte que vous connaissez déjà. Vous avez sûrement déjà entendu, vous connaissez déjà bien. C'est un texte dans lequel ce que je vais vous citer, c'est exactement là qu'on va aller lire ce matin. Dans Deutéronome 29:9. En fait, on va lire tantôt dans Deutéronome 28, puis après ça, on va aller à 30. Mais vous allez comprendre très bien le contexte. Des fois, on cite ce verset-là sans le contexte, et je vous le dis, Deutéronome 29:29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que quoi? Afin que nous les mettions en pratique. Toutes les paroles de cette loi. OK, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, parce qu'il y a des choses que Dieu a décidé de garder cachées, puis ça lui appartient, puis on prendra l'éternité pour continuer à découvrir ces choses-là. Il y en aura pour l'éternité à découvrir des choses avec Dieu. Mais pour l'instant, les choses cachées sont à Dieu, elles lui appartiennent. On met ça de côté, mais les choses révélées, elles sont pour qui? Elles sont pour nous. Elles sont pour nous, elles sont dans le contexte dans lequel c'était dit, le peuple l'entendait, elles sont pour vous, elles sont pour nous, pour nos enfants et jusqu'à où? Jusqu'à perpétuité. Est-ce que ça se rend jusqu'à nous, ça, la perpétuité? Est-ce que c'est bon pour moi, ça, encore aujourd'hui? Alors, il y a des choses qui nous sont révélées et qu'elles sont pour moi. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu me les révéler? Pour que je les mette en pratique. Pour que je mette en pratique la parole de Dieu. Pour que je mette en pratique ce que Dieu me dit, ce que Dieu m'a révélé. Et il n'a pas cherché à le cacher. Ce n'est pas un secret. Il me l'a révélé. Et cette révélation-là m'emmène aussi, me conduit à la bénédiction quand je mets en pratique cette révélation-là. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir, Dieu veut te bénir. Il veut notre bien, il veut qu'on réussisse dans toutes nos affaires. Mais comment avoir la bénédiction? Est-ce que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas béni? Si Dieu veut me bénir, est-ce que ça se peut des fois, j'ai l'impression que la bénédiction est difficile à avoir? Comment avoir la bénédiction? Je vais citer trois exemples ce matin. On ne va pas voir ces exemples-là tout de suite ce matin, juste pour faire tourner nos pensées. En conclusion, on va revenir sur ces exemples-là. Mais comment avoir la bénédiction dans mon couple? Est-ce que c'est possible? On va avoir une conférence des couples qui s'en vient, là. Et j'imagine qu'on va entendre des choses à travers les Écritures qui vont m'amener à glorifier Dieu à travers mon couple. Est-ce que la lumière que Dieu veut que j'aie, qu'elle transparaisse dans mon couple? Dieu veut bénir ton couple. Dieu veut bénir mon couple. Mais des fois, ça semble difficile. On dirait que des fois, on est sous tension. On dirait que des fois, il y a des difficultés parce qu'on est collé à l'autre. Et puis, le péché de l'autre confronte mes péchés, même mon impatience. Et puis, il pourrait y avoir de la difficulté. Mais Dieu veut donner la bénédiction dans mon couple. Dieu veut me bénir. Est-ce que c'est possible d'avoir la bénédiction monétaire? Des fois, on pense à la bénédiction. Et puis, ça va jusque où, la bénédiction? Est-ce que Dieu veut bénir mes affaires personnelles? Est-ce que Dieu veut bénir ma vie, là où j'habite, les choses que Dieu me donne? Comment je fais pour avoir la bénédiction? Le livre que je vous parlais tantôt, l'intention finale qu'il y a, c'est tu vas réussir pour avoir de l'argent, pour être prospère et puis être un grand de ce monde. Et puis, il y a beaucoup de choses vaines à travers ça, là. Beaucoup de ce désir de l'enrichissement. Mais la bénédiction de Dieu, comment est-ce qu'elle vient bénir mes affaires personnelles? Comment est-ce qu'elle vient bénir? Est-ce que je peux avoir la bénédiction monétaire? Est-ce que je peux avoir la bénédiction dans mes possessions, dans les choses que je voudrais avoir? Si j'ai pas les choses, si j'ai pas toutes ces choses-là, est-ce que c'est parce que je suis pas béni? Si j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que c'est parce que Dieu me bénit pas? Ou est-ce que j'en ai beaucoup? Est-ce que c'est parce que Dieu me bénit plus que les autres? Comment est-ce qu'on doit comprendre cette bénédiction-là, finalement? Comment est-ce que Dieu me bénit? Dieu veut te bénir, puis Dieu veut que tu réussisses dans tes choses, puis il veut t'accorder sa bénédiction, mais on a besoin de placer nos pensées aussi en fonction de ce que Dieu veut que je fasse pour avoir sa bénédiction. Et on va voir tantôt, on va répondre à quelques-unes de ces questions-là avec les Écritures. Comment est-ce que Dieu veut bénir ces aspects-là de ma vie? Mais premièrement, on va regarder dans Deutéronome, vous avez peut-être déjà tourné, on va aller au chapitre 28, parce qu'on va regarder... Les 14 premiers versets pour commencer. Avant, on va faire un mot de prière et que Dieu nous dirige dans la lecture de sa parole. Seigneur, on vient devant toi, premièrement pour t'adorer, parce que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Rien ne t'échappe, Seigneur. Tu contrôles toutes choses. Et on veut te dire merci en même temps de veiller sur nous. Merci de nous donner ta parole. Merci de nous révéler ces choses-là. Tu n'as pas voulu cacher les choses essentielles, Seigneur, qu'on avait besoin de comprendre. Tu nous les as révélées. On veut les entendre ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos têtes, pour qu'on ait cette réelle motivation-là, ce réel zèle que de marcher pour toi, que de vouloir t'obéir en toutes choses. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu prend plaisir à accorder la bénédiction. Dieu prend plaisir à accorder sa miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu prend plaisir à donner libéralement. Dieu a du plaisir à nous donner. Dieu veut qu'on invoque aussi sa bénédiction. On prie des fois que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu apprécie ça. Dieu aime ça. On le voit à travers les Écritures. On arrive dans Deutéronome 28. Je pense qu'il faut, juste avant qu'on aille lire, en comprenant quand même le contexte, on va mettre le contexte comme ce que c'est pour qu'on puisse, après ça, tirer les principes pour voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à ma vie. Dieu est en train de s'adresser à son peuple qui est sur le point d'entrer en terre promise. Et à la fin du Deutéronome, le Deutéronome est un peu la loi qui est répétée d'une façon un peu expliquée. Et on se trouve dans Deutéronome 28, dans le troisième discours où ce que Dieu est en train de rappeler, est en train de dire les choses qui sont bonnes et mauvaises, les choses, comment est-ce qu'ils vont vivre la bénédiction dans le pays dans lequel ils s'en vont, là. Ils sont sur le point d'entrée, là. Et puis, voici les choses que vous devez faire. Et voici les choses que vous ne devez pas faire aussi. On se trouve dans ce discours-là où ce que Dieu parle à son peuple. En même temps, en le lisant, on va regarder tantôt que comment est-ce que ça, le principe de base qu'il y a derrière ça, comment est-ce que ça peut venir s'appliquer à ma vie? Comment est-ce que Dieu veut parler à ma vie? Deutéronome 28, on va lire les 14 premiers versets. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi et sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. OK, on est rendu au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Un texte de bénédiction. Dieu s'adresse à son peuple. Et puis, il leur promet de multiples bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Et Dieu, il parle franchement en disant, « Je vais le faire. L'Éternel te fera ça. L'Éternel fera ça. » Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Et le secret vient de cette révélation-là, justement, où ce qu'on va mettre en pratique ces choses-là. Imaginez, par exemple, que votre enfant... Votre enfant, mettons, si vous avez un jeune enfant, vient vous voir et il dit, « Papa, j'ai faim. J'aimerais manger. » Quel plaisir que j'ai que de pouvoir offrir à mon enfant mes biens et de pouvoir lui combler dans sa faim de ce qu'il a de besoin. Alors, je vais dire, « Viens ici, mon enfant, puis j'ai quelque chose pour toi. Un bon pain. Et puis là, je veux que tu manges ce pain-là. C'est bon pour toi. Ça va te nourrir, tu vas avoir l'estomac plein, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir la bénédiction dans ce pain-là à le manger si tu le prends et si tu le manges. Mais là, mon enfant, il me dit, « Ouais, mais père, regarde à côté, là. Ça me semble que ça a de l'air bon, ça. Ces roches-là? C'est des roches. Non, mais là, père, regarde, ils sont dans un beau bol. » Des belles roches, toutes sortes de couleurs. Ça a de l'air bon. Mais non, c'est des roches. Tu peux pas manger ça. Ce qui va te faire du bien, c'est le pain. C'est ça que je veux te donner. C'est ça que je veux t'accorder. Dieu, il nous dit la même chose. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous combler de ses biens. Dieu veut nous faire du bien. Puis des fois, on arrive devant Dieu. Hein? Ouais, mais ça, je pourrais t'en manger. Il me semble que ça a de l'air bon. Mais là, attends un petit peu. Si tu en manges, tu auras des petits problèmes. J'ai jamais essayé, mais moi, j'ai un jeune bébé là, qui a un an. Il se met tout dans la bouche. Tout. Sans exception. Là. Alors, il pourrait aller, par exemple, où est-ce qu'on laisse les bottes, puis il voit une roche par terre, puis pff, il se met dans la bouche. Puis là, ben, je vais le voir, puis je sors la roche de sa bouche. Mais si je fais ça aussi, Dieu il me dit la même chose. Mais là, c'est pas bon pour toi. Ça va te causer du mal. Ça va être pour ton malheur. Si tu essaies de croquer ça, ça va te casser les dents. Si tu essaies de le manger, ça va te tomber dans l'estomac. Oublie ça, ça va pas te combler, ça va pas te donner l'énergie nécessaire. Tu vas avoir de la misère à l'éliminer. Ce que je veux que tu prennes, c'est ça. Je veux te le donner. Dieu nous place devant un choix. Il nous dit, prends ça. C'est ça qui est bon pour toi. Mais on a ce choix-là que de dire, lequel je vais prendre pour me combler. Mon papa m'a tout expliqué. Il m'a tout dit ce que j'avais de besoin. Il m'a dit ce qui allait me faire du bien. Et je le comprends et je le sais. Ce que j'ai à faire, c'est d'agir en pleine connaissance de cause et de prendre ce que mon papa veut me donner. Dieu veut nous bénir. Puis le point de départ, c'est quoi? C'est l'obéissance. Le point de départ de la bénédiction, c'est l'obéissance. Première phrase, verset 1, chapitre 28. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Le peuple est sur le point d'entrer. D'une façon nationale, j'imagine que s'ils étaient fidèles à Dieu, dans l'application de ce que Dieu leur avait donné, dans la mise en pratique de ce que Dieu leur avait donné, il y avait des bénédictions nationales, certainement comme la supériorité sur les nations, de dire, je vais mettre en pratique ce que Dieu veut que je fasse en nation. Et la même chose pour ma vie, qu'est-ce que Dieu, moi, me dit? C'est quoi le point de départ pour ma vie? C'est l'obéissance. Si j'obéis à ce que Dieu me dit, Dieu va me bénir aussi. Regardez le verset, il dit, on a vu dans le verset 1, si tu obéis, si tu observes ses commandements, si tu mets en pratique ces choses-là. Et regardez, quand est-ce que vient la bénédiction? On va regarder le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Quand? Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Quand encore? Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Quand vient la bénédiction? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? C'est quoi le point de départ pour ma vie, dans ma relation avec Dieu? Cette connaissance-là des paroles de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que Dieu m'a révélé, le point de départ, Dieu veut te bénir, puis ça commence avec l'obéissance, la mise en pratique de ce que Dieu me dit. Ça paraît simpliste comme enseignement, hein? Ça paraît de la base de simpliste en disant, c'est, on l'entend souvent, puis c'est la base effectivement de la vie chrétienne, et c'est la base, le commencement de cette bénédiction-là que Dieu veut m'accorder aussi. Des fois, on aimerait pouvoir avoir les bénédictions. Dieu, comble-moi de tes bénédictions, puis je vais vivre pour toi. Je vais m'engager pour toi. Je vais t'obéir. On vient de voir à trois reprises que ce que Dieu dit, c'est « je vais te combler de bénédictions ». Il va en avoir plein. Il est en train de parler à son père. Il va avoir des multiples bénédictions lorsque tu obéiras à ma voix, lorsque tu mettras en pratique. C'est ça que Dieu veut que je mette en pratique dans ma vie, cette obéissance-là. Puis c'est quoi ces bénédictions-là? On pourrait en relever quelques-unes, on pourrait en relever plusieurs au travers des Écritures. Mais si on regarde, par exemple, le verset 3 à 5, « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. » Dieu est en train de dire à son peuple, « Je vais vous donner la bénédiction, je vais vous combler en abondance le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton menu, de ton gros bétail. Tout cela va être béni, va se multiplier. C'est l'abondance. Dieu veut que je vive une vie abondante. » On pourrait citer Jésus dans Jean 10, quand il dit « Je suis le bon berger. » Il est venu donner sa vie. Et la vie pour qu'on l'ait comment? En abondance. C'est ça que Dieu veut nous donner. C'est ça qu'on est en train justement d'étudier présentement dans les bergeries, si vous venez les mercredis. Comment les principes de vie à la base, comment est-ce que si je mets en pratique les principes de vie dans des Écritures dans ma vie, mais que Dieu va me bénir aussi à travers cela et que Dieu veut déjà une vie en abondance. Dieu veut que j'aie cette paix-là, cette joie-là, que j'ai du plaisir à marcher avec lui aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est sans tribulation? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est sans épreuve? C'est pas ça non plus. Et pas parce que j'ai des épreuves ou des tribulations que Dieu ne me bénit pas. Au contraire, juste une petite parenthèse, si on regarde les actes, quand que Pierre et Jean se sont fait battre de verge, ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir souffert pour Jésus aussi. C'était même une bénédiction pour eux que d'avoir souffert pour Christ. Mais c'est la même chose. Dieu veut que tu aies cette vie-là en abondance. Regardez les versets 6 et 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'avanceront contre toi et sortiront contre toi par un seul chemin, puis vont s'enfuir par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, encore cette abondance-là. Dieu veut donner sa protection. Dieu veut donner la victoire. C'est encore vrai pour nos vies. Dieu voulait ça pour son peuple. Dieu voulait que son peuple vive la victoire. Ils allaient arriver dans une terre où ce qui était déjà habité. Puis Dieu disait, vous allez mettre en pratique ces commandements-là. Vous allez arriver parmi des nations et vous allez continuer de suivre ce que je vous ai donné. Et si vous faites des compromis avec ce qu'eux ont déjà, ça va jouer contre vous. Mais si vous obéissez, je vais les chasser, ces gens-là. Vous allez avoir la victoire. Dieu veut m'accorder la victoire dans ma vie aussi. Dieu veut m'accorder la protection. Dieu veut te bénir. Dieu veut que j'aie la victoire sur le péché, la victoire sur le monde. Il l'a déjà donné, mais il veut que je la vive aussi. Il veut que j'aie la victoire sur mes inquiétudes, sur mes peurs. Il me donne cette protection-là et elle est disponible parce que Dieu veut me bénir. Mais en commençant par le point de départ qui est l'obéissance. Sur qui peuvent s'étendre ces bénédictions-là? On vient de voir que Dieu voulait bénir son peuple. Et j'imagine que c'était vrai dans le passé. Dieu, il dit aussi dans le futur, les nations qui vont honorer Dieu, les nations qui vont venir à Jérusalem pour adorer Jésus qui sera là, seront bénies eux autres aussi. J'imagine que c'est encore vrai dans notre temps, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a certainement une application nationale à comprendre aussi dans le monde dans lequel on vit, dans le pays dans lequel on vit, un pays qui va honorer Dieu encore, un pays qui va respecter ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Et je suis convaincu que Dieu bénit notre nation. Il faut continuer pour ça, de prier pour ça. Il faut continuer de prier pour nos gouvernements, prier pour notre nation, que Dieu va la bénir, pour qu'on demeure fidèle aux principes de base de ce qu'il nous a donné sur la foi. Est-ce que Dieu veut bénir notre assemblée? Oui. Est-ce que Dieu veut bénir notre Église? Je suis convaincu que oui. Et encore là, Dieu veut qu'on soit obéissant, qu'on comprenne son message et qu'on le mette en pratique. Il y a plein d'applications qu'on pourrait tirer dans les épîtres que Dieu nous donne de mettre en pratique le pardon, de parler selon la vérité, d'accueillir, de ne pas faire de favoritisme. Voici plein de choses que Dieu nous donne et de dire, mettez-les en pratique. Et l'application de cette obéissance-là dans notre assemblée, Dieu va bénir aussi l'assemblée. On parlait tantôt des offrandes, on va y revenir. C'est la même chose. Dieu veut nous bénir. Dieu le fait déjà, mais Dieu veut continuer de nous combler de ses bénédictions à travers l'obéissance qu'on va avoir. Est-ce que c'est vrai pour ma famille? Est-ce que Dieu veut bénir ma famille? Est-ce que Dieu veut bénir votre famille? C'est la même chose. Je suis convaincu que oui, et moi personnellement aussi. Chacun de nous personnellement, on veut avoir cette bénédiction-là que Dieu veut nous accorder. Quand je me présente devant mon papa, puis je lui demande sa bénédiction. Ce pain-là qu'on pourrait appeler obéissance, que quand que je consomme l'obéissance, disons-le comme ça, Dieu va me bénir. Dieu m'a promis que si je mange ce pain-là, je vais avoir cette énergie-là. J'aurai plus la faim que j'avais avant et je vais avoir l'énergie, je vais être comblé comparativement à si je dis, « Ouais, mais eux autres, ce qu'ils ont, il me semble que ça a de l'air beau. Hein, on pourrait juste ajouter un peu de lait là-dedans puis que guimauve, ça serait bon. » On pourrait manger ça comme un bol de céréales. Non, ça ne sera pas meilleur. Quand même qu'on les polirait, c'est déjà des roches polies, là. On va les polir un peu plus. Ça va toujours demeurer mauvais pour nous. Quand on décide de désobéir à Dieu, il y a plusieurs malheurs qui sont là aussi quand on décide de consommer ce péché-là. Quand on décide, on s'en va vers le compromis un peu, puis on les polie, puis comme je dis, on les arrange pour qu'elles paraissent bien. Dieu dit, prends ce que je t'ai donné. Ce que je t'ai révélé, mets-les en pratique. Puis il y a des bénédictions à travers ça qui vont en découler aussi. Je vais te bénir, je vais rajouter par-dessus ça aussi. Tournons un petit peu plus loin. On va sauter un chapitre, chapitre 29. On a lu tantôt 29-29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, Mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants et à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu désire, c'est qu'on mette en pratique les choses révélées. Imaginez, par exemple, on va lire, pour commencer, les 11 à 14 dans chapitre 30. Dieu veut me bénir, puis je dois prendre au sérieux le choix qui se présente devant moi. Parce que Dieu me laisse vraiment un choix qui se présente à moi, et il veut que je le choisisse. Il m'ordonne de manger ce pain-là, mais en même temps, il veut voir comment je vais obéir. Je veux voir la disposition de mon cœur. OK, versets 11 à 14 du chapitre 30. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? » Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Ce que Dieu nous dit, est-ce que c'est inaccessible? Ce que Dieu veut que je mette en pratique, est-ce que c'est inaccessible? Imaginez, par exemple, mon enfant vient me voir. « Ah oui, t'as faim? » viens chercher le pain. » Et puis là, il est là, là, puis, « Mais papa, j'ai faim. »« Oh oui, je t'en donne du pain, prends-le. T'es capable, vas-y. » Et puis là, tu vas pouvoir te nourrir. Est-ce que Dieu fait la même chose avec sa révélation? Est-ce que Dieu fait la même chose avec la mise en pratique de ses commandements, où ce qu'il dit, « Je te l'ai donné, mais est-ce que c'est au ciel pour qu'on se dise, finalement, on se gratte la tête chacun d'entre nous? » OK, là, c'est qui va y aller le chercher? Parce que là, on a besoin de manger, on veut la bénédiction, on veut la mettre en pratique. Qui va y aller? Dieu dit, « Non, c'est pas dans le ciel pour que tu sois pas capable d'aller le chercher. Je n'ai pas placé l'autre côté de la mer. Là, je vais lancer mon pain. » Non, non, c'est pas vrai. Mais c'est pas non plus l'autre côté de la mer pour qu'on se dise, « C'est qui va nager? » Ça se peut qu'il y ait un peu de pain avec les offrandes. « C'est qui va aller chercher le pain, qui va nager l'autre côté de la mer pour aller le chercher? » Mais c'est pas si inaccessible. C'est pas inaccessible comme ça. Dieu, il dit, « Je l'ai placé à ta disposition, à la hauteur. Quand mon enfant vient me voir, là, puis qu'il me veut du pain parce qu'il a faim, je vais peut-être me placer à genoux, je vais prendre mon pain, puis je vais lui donner. Ou je vais le faire venir asseoir à la table, comme d'habitude. Mais je vais lui donner à sa disposition pour qu'il soit capable de le prendre dans son assiette et d'en manger. Dieu a fait la même chose avec nous. Où ce qui nous tend, ces choses-là, on va relire le verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche. Et dans ton cœur, afin que quoi? Que tu la mettes en pratique. La révélation que Dieu nous donne, la mise en pratique de ces choses-là, elle est accessible. Dieu dit, je la mets dans ta bouche, dans ton cœur, elle est là. Tu ne pourras pas dire, je n'étais pas capable d'aller la chercher, Dieu. Tu ne pourras pas dire, je ne la comprenais pas. Les commandements, les ordonnances, les préceptes que Dieu nous donne, on les comprend. Le problème, des fois, c'est qu'on ne veut pas les mettre en pratique et on ne veut pas les comprendre. C'est plus ça le problème. Mais Dieu, il les place à notre disposition. Regardez le verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'ai devant moi le choix. Dieu m'a mis vraiment à ma disposition que je puisse être capable de prendre cette chose-là. » Est-ce qu'Adam a fait pire que moi? Hein, lui, il est apparu dans la bénédiction abondante, dans la perfection. Et puis là, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'Adam a été mon représentant finalement? Il me semble, moi, j'aurais fait bien mieux que ça. J'aurais pas pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas sûr. Bien que je suis pécheur de par nature à cause de Adam qui était mon représentant, je suis pécheur aussi par choix. Dieu place devant moi le choix de mettre en pratique. Dieu ne veut pas que je désobéisse, mais il veut voir la disposition de mon cœur aussi pour que je dise, c'est vrai Dieu, ce que tu me donnes, c'est pour mon bien, puis je vais le prendre. Dieu dit, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est quoi que Dieu veut que je prenne? Regardez verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Afin que quoi? Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Je te prescris de prendre cette chose-là que je te donne, que je te révèle, que tu le mettes en pratique, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dans lequel tu vas entrer. C'est vrai pour ma vie. Si c'était vrai pour Israël qui allait entrer en terre promise, ces principes-là que Dieu me donne sont vrais dans ma vie quotidienne. Dieu me dit, tu as le choix. Dans nos journées, là, il y a des multiples choix qui se présentent à nous et on doit choisir l'obéissance. Ce matin, on parlait dans notre classe de code du dimanche qu'on a à lutter contre la tentation. On pourrait être tenté de... Non! Je dois me rappeler la vérité. Et je vais continuer de faire les bons choix à chaque jour de ma vie. Ça se présente pas juste une fois où ce que je fais le choix, puis hop, c'est réglé pour le reste à venir. À tous les jours, j'ai à faire des choix qui me donnent cette bénédiction-là, cette abondance-là. Et si on regarde la suite de l'histoire d'Israël, ben à un moment donné, ils ont déraillé. À un moment donné, ils ont abandonné. Si vous venez dimanche soir, si vous venez ce soir, on voit justement les juges. Comment est-ce qu'à plusieurs reprises, ils abandonnaient Dieu? Ils abandonnaient la mise en pratique de ce que Dieu voulait leur donner? Puis comment est-ce que ça les conduisait finalement à l'esclavage? Mais Dieu place ce choix-là devant nous parce qu'il veut nous bénir. Il dit, je te prescris aujourd'hui de choisir la vie et le bien. Mais choisis-la pour que tu sois béni. On continue verset 17 jusqu'à 20. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est clair? Dieu dit, tu as un choix devant toi. Je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Je veux te combler de bénédictions. Choisis la vie. Puis je vais combler ta vie justement de ces bénédictions-là. Tu vas vivre, il parle à son peuple, tu vas vivre heureux dans le pays dans lequel je t'ai donné. Est-ce que c'est vrai encore pour moi aujourd'hui? Si la perpétuité se continue jusqu'à aujourd'hui, si je mets en pratique ce que Dieu me donne, Dieu veut me combler aussi de ces bénédictions-là, encore aujourd'hui. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu veut que je fasse les bons choix. Il est en train de nous mettre en garde aussi. Si tu choisis, on a passé par une section tantôt de malédiction en ce qui concerne le peuple. Il y a des malheurs dans nos vies qui arrivent aussi quand on choisit le mal. Quand on consomme le péché, il y a des conséquences qui sont là. National Geographic a répertorié, à un moment donné, j'ai pas la date ici, ils ont trouvé un python de 13 pieds. Un serpent, là, un python de 13 pieds. Je sais pas, 13 pieds, là, ça peut être assez long, là, peut-être de moi au mur qui est là. Et puis, il y avait un alligator que le serpent avait mangé. Un alligator de 6 pieds. Il l'avait trouvé. Alors, imaginez le python qui voit l'alligator. Hein, bon snack. Pas pire, hein? Et là, il l'entortille et puis il l'avale, il le mange. Mais ce que National Geographic a vu, c'est que l'alligator a dévoré le python de par son intérieur en le coupant en deux. Et finalement, le python en est mort. Des fois, on pense avoir fait une bonne chose avec le péché, un bon deal. Et puis quand on l'a mangé, bien, il nous consomme par en dedans. Il y a des conséquences qui ressortent et on en a du malheur qui ressort à cause qu'on a choisi cette mort-là. Puis Dieu ne voulait pas ça. Puis Dieu m'a mis en garde, ne mange pas d'alligator, c'est dangereux pour ta vie. Mais c'est la même chose encore aujourd'hui. Dieu me met en garde. Dans Nombre, on aurait pu lire Nombre 32-23 que je vous ai déjà cité il y a plusieurs semaines. Mais si vous faites ainsi, si vous choisissez le mal, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. on pêche. Galates, il dit la même chose, hein? Paul, il dit la même chose. Si tu sèmes, tu vas le récolter. Fait qu'attention à ce que tu sèmes. Parce que des fois, tu récoltes pas toujours. C'est vrai pour la bénédiction comme la malédiction. On récolte pas toujours. Des fois, on sème avec larmes, mais on sème des bonnes choses, puis on va récolter des bonnes choses. Mais si je sème des fois le mal, je pratique le péché, puis je récolte pas tout de suite les conséquences, sois sûr que ton péché va t'atteindre. Sois sûr que le péché, c'est un boomerang, puis il va te revenir. Et puis quand ça se met à pousser derrière moi, je me rends compte, « Hey, c'est des pissenlits, ça, là. » À un moment donné, on perd le contrôle, puis on a de la misère avec ce qu'on a semé depuis des années ou depuis plusieurs semaines, depuis du temps, parce qu'on a laissé le péché qui va finir que par nous rattraper un jour ou l'autre. Dieu ne veut pas qu'on fasse ce choix-là. Il y a un choix de vie qui est devant moi que Dieu veut que je prenne parce que Dieu veut me bénir. Bon, je vais juste relire le verset 20 avant qu'on conclue ce que Dieu nous dit. Dieu veut qu'on l'aime pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu veut que je l'aime. C'est le plus grand commandement. Aime ton Dieu. Aime ton prochain, qui est le deuxième commandement qui lui est semblable. Pour obéir à sa voix, si j'aime Dieu, comment est-ce que ça se manifeste, cet amour-là pour Dieu? L'obéissance. C'est une vérité du Nouveau Testament aussi. Pas parce qu'on est dans Deutéronome que c'est plus vrai dans le Nouveau. Si on lit Jean 15, ben celui qui m'aime, je l'aimerai aussi, je me ferai connaître à lui. On va habiter ensemble, il va avoir une relation intime. Et puis si je l'aime, je vais demeurer en lui, je vais pratiquer ses commandements. C'est ce que Dieu veut de moi. Dieu veut que je lui montre mon amour avec l'obéissance pour t'attacher à lui. Car de cela dépend finalement aussi la bénédiction qui va en découler, de ma relation avec lui. Jésus m'a donné sa vie. Et il veut que je l'aie en abondance. Comment la bénédiction de Dieu vient toucher ma vie? Tantôt, je parlais de notre couple, pas de mon couple personnellement, là, mais de nos relations qu'on peut avoir de couple, ou bien de notre argent, ou de nos possessions. Dieu veut bénir nos relations conjugales. Dieu veut que notre couple soit béni. Et puis là, vous dites peut-être, ouais, « Moi, je suis pas marié, mais vous avez aussi cette bénédiction-là. » Il y a plein de principes bibliques qui se rattachent aussi à ces relations-là, à savoir que Dieu veut que j'honore le mariage. Dieu veut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est-à-dire que Dieu veut que si j'ai une relation avec quelqu'un qui ressemble à un mariage, mais il veut que ça en soit un mariage. Il ne veut pas juste que je m'accote avec quelqu'un ou que je fréquente quelqu'un. Dieu veut bénir ces relations-là de couple que l'on a, mais il l'a placé aussi dans un contexte pour lequel ça soit bénissant. Je donne un exemple que j'ai souvent donné à la jeunesse. Vous avez peut-être chez vous un foyer. Puis quoi de plus agréable que de partir un petit feu de foyer et puis de regarder le feu brûler? On va se réchauffer avec le feu. On va l'entendre crépiter. On va l'écouter. Ça va être agréable. Prenez ce feu-là, là. Mettez-le dans le milieu du salon, à l'extérieur du foyer. Est-ce que ça va être bénissant? Ça va chauffer, ça va crépiter. À un moment donné, on n'aura plus de maison. C'est la même chose. La bénédiction que Dieu veut m'accorder, il la place dans un contexte précis. Par exemple, dans le mariage, Dieu veut bénir mon mariage. Et tous les préceptes qui s'y relient dans ma relation, homme, femme, femme, homme, en les mettant en pratique, Dieu va bénir ces relations-là aussi. J'ai hâte d'entendre les choses qui seront dites pour dimanche prochain. Mais Dieu, il dit, par exemple, fais la joie de ta femme de la jeunesse. Non, je le dis toujours tout croche, celle-là. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. C'est ça? OK. Dieu, il dit, la femme que tu as mariée, la femme que tu prends, l'homme que tu as marié, tu peux en prendre plaisir. J'ai béni l'union, je bénis ce mariage-là. Il y a un plaisir à avoir. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est une bénédiction que de pouvoir mettre en pratique ce commandement-là. Soumets-toi à ton mari. Ça aussi, c'est une bénédiction. Il y a des bénédictions qui en découlent aussi. Qu'à chacun d'entre nous, on met ces rôles-là en pratique. Dieu va bénir cette obéissance-là que l'on met en pratique dans notre couple. Et de l'autre côté, je voyais ce matin aussi dans mon école du dimanche, Proverbe 7, comment est-ce que chez les stupides, il y avait un jeune homme qui se promenait sur le bord de la rue, puis finalement, il est allé vers une prostituée. Et puis son état, Salomon, il dit, C'est un bœuf qui s'en va à la boucherie. Puis c'est au prix de sa vie qu'il l'a fait. Puis Salomon dit un peu plus tard dans Ecclésiaste 7:26, vous pourrez le trouver, « J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » C'est un exemple de péché où ce que Salomon est en train de dire, Dieu est en train de nous dire, plus amer que la mort, de choisir, par exemple, dans une relation de couple, d'aller vers la femme étrangère. D'aller dans une relation que Dieu ne souhaite pas pour moi, mais Dieu va, il va avoir du malheur, il va y avoir des conséquences à faire ce choix-là. Plus amer que la mort. Au prix de sa vie, ce jeune homme-là est allé vers la femme étrangère. C'est un exemple. Et on pourrait en avoir plein d'autres. Par exemple, l'argent. Est-ce que Dieu veut bénir mes finances? Est-ce que Dieu veut bénir mes revenus? Je suis convaincu que oui. Et on va nuancer aussi un petit peu plus tard par après. Là. C'est pas nécessairement l'abondance de l'argent. Mais regardez, on va aller lire Malachie. Encore cette notion-là de malheur et de bénédiction. Et je comprends qu'il faut le placer dans le contexte du peuple qui a à donner ce que Dieu lui avait demandé pour le temple. Et Dieu est en train de dire, vous avez oublié quelque chose. Vous méprisez mes commandements. Vous avez oublié ce que je vous ai demandé et vous ne mettez plus en pratique en ce qui concerne, par exemple, le temple, ce que vous devez amener. Et d'une façon nationale, et encore là, on va tirer des principes pour nos vies personnelles, le principe demeure. Dans Malachie, à partir de Malachie 3, vous l'avez trouvé, juste avant Matthieu. Malachie 3, le verset 7. On va lire 7 à 9 pour l'instant. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? On n'a rien fait de si grave que ça. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. On va arrêter là pour l'instant. Dieu est en train de parler à son peuple. Et puis là, il est en train de dire, vous avez oublié, vous vous êtes écarté de ce que je vous ai donné. Mais revenez à moi. Quand que Dieu nous dit ça, on pourrait avoir la même attitude que le peuple. Mais voyons, en quoi est-ce qu'on t'a oublié? En quoi est-ce que nous nous sommes écartés? Puis là, Dieu est en train de donner un exemple. Entre autres, par exemple, pour les biens, Dieu avait béni son peuple. Dieu avait béni leurs fruits, puis Dieu avait prescrit aussi ce que vous aurez, ce que je vais vous donner au cours de l'année, au cours des semaines, ce que je vais vous donner. Venez en reporter une portion. C'est ça que Dieu demandait. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils gardaient cette portion-là dans leur poche. Puis de fil en aiguille, ils avaient oublié ça, et puis ils ne venaient plus. Mais c'est quoi le constat que Dieu est en train de dire? Verset 9, en parlant à son peuple, vous êtes frappés par quoi? Par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Quand je choisis de compromettre ce que Dieu me demande, il y a du malheur aussi. Dieu veut bénir aussi mes revenus. Dieu veut bénir. Il me bénit abondamment dans tout ce qu'il me donne. Mais il veut aussi que je l'honore avec mes biens. Il veut que je lui rende. Et de l'autre côté, ben Dieu bénit quand on lui donne. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, en quoi? En abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Dieu est en train de dire, honorez-moi avec vos biens, ce que je vous donne, redonnez-moi cette dîme-là et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et regardez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Regardez pour vous si je ne vais pas continuer de bénir et de surabonder votre bénédiction que vous allez avoir. Vous allez voir que vos vignes ne vont pas tomber en sécheresse. Les nations qui vont venir ne détruiront pas vos récoltes. Je vais les préserver pour vous. Continuez de m'honorer avec vos biens. C'est la même chose pour nos vies. Comment est-ce qu'on utilise tout ce que Dieu nous donne pour aussi le glorifier, pour lui rendre aussi, même à travers nos offrandes? Et une dernière application que je vais donner, parce que le temps passe très vite, tournez dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6. L'obéissance se met en pratique dans tous les aspects de nos vies. J'en ai cité que 3 maintenant. Et puis 3, je pensais que c'était des exemples qui regroupent beaucoup aussi. Quand on regarde 1 Jean, Dieu il parle que ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est des choses qui viennent nous piquer facilement et qu'on peut facilement aimer le monde à cause de ça. Et cet orgueil de la vie sur lequel on ne va pas se porter, mais plutôt porter vers notre confiance en Dieu. 1 Timothée 6, versets 6 et 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que Dieu me bénit, même si j'ai le vêtement et la nourriture? Ben oui, cela nous suffira. Et ce que Paul est en train de dire, c'est quoi la grande source de gain finalement? La piété et le contentement est une grande source de gain. Dieu bénit justement, la bénédiction, elle est abondante aussi dans le contentement, dans ce que Dieu me donne, de me réjouir dans ce que Dieu me donne. Je suis content de ce que j'ai et de le reconnaître comme étant la bénédiction. La piété avec le contentement est attachée à une grande source de gain. Mais de l'autre côté, on continue le texte pour terminer, de l'autre côté, sans le contentement, sans la piété, où est-ce que je m'en vais? Verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand on citerait tantôt, je vous parlais du secret, c'est exactement ça, à mon avis. C'est-à-dire ce désir d'enrichissement, se porter vers l'amour de l'argent, bien, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'on tombe facilement dans la tentation, dans le piège, dans bien des désirs insensés et pernicieux, et puis finalement, dans bien des tourments aussi. L'amour de l'argent est une racine de quoi? De tous les maux. Mon désir de dire, bien là, je veux rassembler mes possessions, je veux vivre avec beaucoup de choses, la grosse maison, les grosses autos, et puis si j'en ai, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent, ce à quoi je vais porter. Dieu, dans l'obéissance que je vais lui porter, il veut que je pratique la piété. Le contentement de ce qu'il me donne et ce qu'il me dit, c'est que ça va être une grande source de gain. Mais de l'autre côté, quand je vais choisir finalement cet amour de l'argent, ce désir d'enrichissement-là, de vivre comme les nations étrangères, de vivre comme le monde, bien finalement, il y a bien des tourments, des pièges, des désirs, des tentations et une racine de tous les maux quand mon désir se porte vers ce choix-là que de dire « c'est comme ça que je veux vivre ». Dieu veut nous bénir abondamment. Dieu veut te bénir. Et je crois qu'on doit y croire. Les choses révélées sont pour nous afin qu'on les mette en pratique. Le secret, il n'est pas très secret. Il est facile, on peut le comprendre, mais il faut le mettre en pratique. Prions pour terminer. Seigneur, on vient devant toi encore pour te dire merci pour ta parole, pour tes écritures. Seigneur, on veut s'engager en même temps vers ta parole, envers ce que tu nous dis, à choisir la vie. Tu veux nous bénir, tu veux qu'on fasse le bon choix. Et Seigneur, on te prie que tu puisses éclaircir nos yeux, qu'on puisse faire du ménage dans nos vies, dans nos pensées, pour qu'on soit capable de comprendre ce que tu veux qu'on choisisse. Qu'on soit capable de discerner le bien et le mal, qu'on ne croit pas aux mensonges. C'est à cela qu'on veut s'engager aussi, de continuer de vivre pour toi, de vivre dans l'obéissance, parce qu'on t'aime, parce qu'on veut s'attacher à toi. C'est dans ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.